Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir et Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Alors Rav Lemel, on poursuit notre étude et donc là maintenant dans un nouveau chapitre qu'on lit chaque semaine dans nos communautés, c'est Béchalach. Et dès la sortie du passage de la mer Rouge, qui est une énorme épreuve, événement et nouvelle épreuve, il y a Amalek qui attaque le peuple juif, qu'on appelle encore les Bnei Israël. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ?
Exact. La Torah donc nous relate ce fameux passage de ce qu'on appelle la mer des joncs. Je ne sais pas pourquoi ils disent la mer rouge, c'est Yam Souf, la mer des joncs. Et le clan d'Israël passe de l'autre côté. À ce moment-là, il y a ce fameux chant de la Shira. Il va y avoir l'épisode de la manne. Et puis après, le verset nous dit « Vayavo Amalek, vayilacham im Israël birfidim ». Et Amalek vient et fait la guerre avec Israël à Rephidim. On nous donne le nom du lieu. Et tout le monde connaît ce commentaire qui nous dit qu'en effet, c'est l'histoire d'une baignoire brûlante dans laquelle personne n'ose rentrer. Et puis quelqu'un y rentre. Il sait très bien qu'en rentrant dans la baignoire avec cette eau brûlante, il va se brûler, mais il va quelque part refroidir un petit peu l'eau, et les autres pourront rentrer dans la baignoire. Et on nous dit qu'au fond, Amalek sait très bien qu'il risque contre Israël de tout perdre, mais il veut casser le mythe d'invincibilité du peuple juif. C'est très, très intéressant de voir qu'au fond, Amalek est le symbole même de ce peuple qui, tout au long de l'histoire, va nous attaquer. Sa première démarche, c'est qu'il ne veut pas, en effet, que le peuple d'Israël occupe sa place dans l'histoire, parce que quelque part cette invincibilité, c'est tout simplement dire à l'humanité, ne vous attaquez pas au peuple d'Israël, il a une mission à remplir, et Amalek ne veut pas justement que le peuple d'Israël remplisse cette mission. Maintenant, il y a quelque chose ici d'un peu plus subtil que le texte est en train de nous dire. Le texte nous dit, il fait la guerre avec Israël à Rephidim. Rephidim, c'est un nom de lieu. Mais nos maîtres disent aussi « Rephidim ilachon rifayon ». Rifayon, c'est quoi ? C'est le moment dans lequel on en fait moins, on se laisse un petit peu aller. Et « chez Rafou yedem min ha-Torah ». On dit qu'à ce moment-là, ils se sont un petit peu laissés aller au niveau de la Torah. Alors évidemment, de quelle Torah il s'agit, il faut bien se poser la question, puisque la révélation va avoir lieu plus tard, mais il existe déjà quelque chose qui a été transmis. Et le peuple d'Israël, eh bien, « Rephidim », c'est le lieu dans lequel eh bien, la Torah ne représente plus grand-chose. La Torah est toujours présente, mais rafouille, c'est quelque chose de faible, quelque chose qui n'a pas trop d'importance. Et à ce moment-là, justement, Amalek vient, Amalek attaque. C'est-à-dire que Amalek, qui est le symbole même de ce peuple qui, tout au long de notre histoire, va vouloir faire disparaître le peuple juif, puisque Amalek, il se promène tout au long de l'histoire, il va prendre différentes formes, il sera toujours présent, eh bien, il émerge lorsque le peuple d'Israël, justement, met de côté ce qui est l'essentiel même, j'ai envie de dire l'essence même de son existence, c'est-à-dire la Torah, et surtout son étude. C'est très intéressant parce qu'on voit de manière générale, et on va en parler un peu plus tard dans les parachutes, dans les textes qui arrivent, la révélation, la Torah, et souvent on parle de Torah et on voit dans la Torah avant tout le monde de l'action, le monde des mitzvot, le monde des commandements. Et en effet, on peut se dire, bon, peut-être à un moment, ils ont moins respecté les commandements, alors que là, il s'agit surtout de cette notion du rapport à l'étude. Pourquoi l'étude ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Si on réfléchit, pour la plupart des personnes, l'étude, c'est avant tout l'acquisition d'un savoir qui va nous être nécessaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va se dire, bon, ben, on va étudier peut-être la loi, on va étudier le texte qui nous apprend comment nous comporter dans telle et telle situation, on apprend le texte qui nous apprend comment on fait le Shabbat, comment on fait Kasher, etc., etc. Oui, c'est sûr et certain que cette étude est nécessaire, parce que tout simplement, nous avons besoin de savoir comment fait-on les choses. Mais là, Il s'agit de quelque chose d'autre. Il s'agit de l'étude pour l'étude. Il s'agit de l'étude parce que c'est la Torah. Et c'est intéressant parce que c'est cette étude-là qui nous nourrit, c'est cette étude-là qui nous donne, j'ai envie de dire, notre structure spirituelle qui nous permet de traverser l'histoire. Et il y a quelque chose ici, j'ai presque envie de dire, d'incompréhensible. C'est-à-dire comment l'étude d'un texte, qui ne va pas nécessairement m'apprendre comment agir dans telle et telle situation, eh bien, cette étude-là nous nourrit en tant que telle et nous permet d'être pleinement dans notre identité. On le dit d'ailleurs, vous savez, tous les matins, lorsque l'on fait les fameuses bénédictions sur la Torah, on parle de Torah Lishma, d'une Torah qui est étudiée pour elle-même. C'est l'étude pour l'étude. Alors, l'étude pour l'étude n'est pas un lieu de refuge, clairement. L'étude pour l'étude, c'est quelque chose qui doit nous concerner toutes et tous. Et je dis bien toutes et tous. C'est-à-dire que chacun, chacune d'entre nous doit apprendre et se nourrir de la dimension spirituelle présente dans le texte et ne pas juste y voir un lieu d'apprentissage, de connaissance nécessaire par rapport à une réalité quotidienne. C'est cette notion de Torah Tralishma. Alors, Amalek nous attaque, c'est-à-dire que Amalek, vous savez que la valeur numérique du mot Amalek, c'est la même valeur numérique que le mot Safek, qui veut dire le doute. Amalek, justement, il est là pour introduire ce doute. Il est là pour nous dire, mais est-ce que vous pensez que c'est véritablement si important d'étudier pour étudier? Est-ce que véritablement, vous n'êtes pas en train de vous tromper, en train d'apprendre des choses qui, au fond, risquent de ne pas nous servir dans la réalité concrète de notre quotidien? Si moi, j'apprends les lois des détails des sacrifices, les lois des détails des prêtres, alors que je ne suis pas, est-ce que véritablement, tu penses que c'est quelque chose qui est nécessaire? Allons vers ce qu'on appelle l'univers du vadaï, de la certitude, c'est-à-dire, oui, j'apprends telle chose parce que cette chose m'est nécessaire, parce qu'elle va... Non. Amalek nous attaque à ce moment-là. Amalek nous attaque sur cela, au fond. Vayavo Amalek, Vayilachem Yisrael Birfilim, et il fait la guerre, justement, par rapport à cela. C'est-à-dire que la guerre d'Amalek, au fond, qu'est-ce qu'il a sous-tend? Eh bien, c'est justement cette vision que nous avons du rapport à la Torah et du rapport à l'étude. C'est-à-dire d'une Torah et d'une étude qui nous nourrissent spirituellement, qui nous donnent, comme je l'ai dit précédemment, une ossature spirituelle et qui font que l'on peut traverser l'histoire. Et c'est intéressant parce que le verset va continuer, va dire que quand le peuple d'Israël commence cette guerre, alors Moïse vient, Moshe va sur le champ de bataille, il est là, il prie, il lève les mains vers le ciel. Et le texte nous dit que chaque fois qu'il lève les mains vers le ciel, eh bien, le peuple d'Israël va gagner. Et quand il les baisse, eh bien, on perd. Alors le Talmud pose la question, il dit, mais quoi, c'est les mains de Moïse qui font la guerre? Et on nous dit, non, quand il lève les mains vers le ciel, traduction, quand le peuple d'Israël lève les yeux au ciel et... C'est exactement ça le langage de ce texte. Véritablement, soumettre leur cœur à leur Père qui est aux cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, on dépasse cette dimension de réflexion intellectuelle dans laquelle est-ce que véritablement cette étude elle est importante? Est-ce que véritablement cette mitzvah est importante? Non. On dit non. On est soumis au Créateur de l'univers et on se rappelle au fond que c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Et il y a quelque chose de fou, parce que Amalek, c'est la société qui dit non, si tu n'es pas obligé d'être soumis, alors surtout ne te soumets pas. Si tu n'as pas le choix, alors oui. Mais on dit non, on a envie. Parce que c'est comme cela, véritablement, qu'on va arriver à découvrir réellement notre espace de liberté, parce qu'on a décidé de se soumettre. Et parce que, eh bien, dans cette étude, dans cette mitzvah que nous allons pratiquer, qui est la mitzvah la enfin, des mitzvot les plus importantes, et même si on ne peut pas faire la gradation des mitzvot, eh bien, c'est là où se situe véritablement notre essence, c'est là où se situe véritablement la partie essentielle de notre histoire. Et le verset continue et dit « Milchama l'Hashem ba'amalek midordor ». Cette guerre, c'est une guerre entre Dieu et Amalek de génération en génération. C'est-à-dire que c'est avant tout ce que véhicule le peuple d'Israël dans la relation à Dieu, de ce qu'il représente, c'est ça cette guerre qui durera de génération à génération. C'est-à-dire qu'on se confrontera de manière récurrente à cette opposition, on se confrontera de manière récurrente à ce désir de mettre de côté cette singularité du peuple juif dans sa relation à la Torah, mais qui nous aide et qui nous permet de traverser l'histoire. Voilà un petit peu donc ce qui se joue au moment où, ça y est, l'Égypte est derrière nous, les Égyptiens ne sont plus là, et là, véritablement, va commencer notre histoire, et on nous dit, voilà ce que vous allez rencontrer dans votre histoire, et voilà quelque part ce que l'on attend de vous.
Et à la volonté, faire face au doute et à la volonté inévitable de relâcher l'effort. On va y penser. Ravelli Lemel, je vous souhaite une bonne semaine. Shavua Tov.
Shavua Tov.
Et nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Rav Mordechai, bonsoir à vous et Shavua Tov.
Shavua Tov, Mazel Tov, Elio Levi Zachor Tov.
Alors, Rav Mordechai, nous savons tous que chaque mot est important, que l'étude, ce n'est pas seulement une étude linéaire de phrase à phrase. Et nous savons tous que chaque mot de la Torah a une profondeur qu'on a même du mal à imaginer. Et vous, vous voulez réfléchir ce soir sur une idée transversale qu'on voit partout dans la Torah, c'est l'eau. L'eau. Ah oui, on vient de passer la mer des gens. Donc, on y pense. Mais l'élément eau a un certain nombre de significations dans la Torah que nos sages ont étudiées. Et de quoi s'agit-il ?
Alors, il y a par exemple, Yaakov, Eliezer, envoyé par Abraham, rencontre Rivka au bord d'un puits, près d'un puits. D'accord ? Et dans ce espace-là, il va repérer que Rivka peut être mariée avec Yitzhak parce que les eaux montaient vers elle. C'est le Midrash qui raconte ça. Il y avait un miracle, il a compris qu'elle était très particulière parce qu'elle suscitait ce miracle. D'accord ? Donc ça, c'est Yaakov. Yaakov également, il va rencontrer Rachel près d'un puits. Moshe Rabbeinu également, il sauve les filles de Yitro près d'un puits. Et puis ici, on retrouve cet élément-là. La première plaie qui frappe l'Égypte, par exemple, c'est l'eau, directement, le Nil, qui devient du sang. Et on va voir que dans cette paracha, Israël passe la mer Rouge. Et c'est dans la mer Rouge que s'achève définitivement l'aventure de l'Empire égyptien. On retrouve également que Moshe Rabbeinu ne pourra pas rentrer en Eretz Israël dans l'histoire du rocher. Il tape le rocher au lieu de parler. Il était question de faire sortir de l'eau. Un des grands miracles que Myriam va susciter, c'est le miracle du rocher. Qu'est-ce qui se passe autour de l'eau ? Pourquoi est-ce que l'eau vient, à ce moment-là, on rencontre l'eau dans des moments clés qui sont des moments de rencontre entre un homme et une femme qui vont former un couple, ou dans des moments de libération, ou au moment des moments d'aliénation ? Quand Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël parce qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler, c'est qu'il y a un moment ici, en quelque sorte, d'aliénation, au sens où il reste attaché à une chose dont il aurait dû se détacher pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Il fallait qu'il acquière une certaine émouna et qu'il fasse acquérir cette émouna à Israël. En fait, dans l'eau, il y a un élément fondamental. L'eau, c'est l'élément primordial qui était là sur la terre. Au moment de la création, il y a de l'eau. Bereshit bara Elokim et Shamayim v'etare. Shamayim, c'est Shamayim. Là-bas, il y a de l'eau. La femme va au mikvé, se trempe dans de l'eau. Nous-mêmes, les hommes, avant Kippour, on va au mikvé, pour ceux qui ont ce binag avant Shabbat, on va se tremper dans l'eau. On fait Netilat Yadayim, par exemple. On va manger du pain. Pour passer d'un état supposé d'impureté à un état de pureté, on passe par l'eau. Qu'est-ce qu'il y a avec l'eau qui suscite ce passage ? En fait, l'eau, c'est l'élément primordial. Maïm. Mais il y a aussi quelque chose, c'est que le mot Maïm, quand vous décrivez le même, ça s'écrit même. Donc vous avez le mot maïm, ça s'écrit avec un même, avec un yud, avec un même. Mais le même lui-même, il s'écrit d'une certaine manière. Il s'écrit même. Donc c'est-à-dire que le mot maïm, c'est un mot qui est encadré par deux lettres identiques, mais à l'intérieur du mot lui-même, si vous écrivez, vous décomposez le mot et vous l'écrivez, il y a aussi un yud qui est entouré par deux mêmes. Ça veut dire que la structure extérieure et la structure intérieure se rencontrent. En fait, grâce à l'eau, il y a une structure intérieure de l'histoire ou de l'individu qui rencontre sa structure extérieure. J'explique. Lorsque quelqu'un va au mikvé, une femme va au mikvé pour se sortir de son état donc de Nida, ou alors qu'un homme va au mikvé, par exemple, avant Kippour, eh ben son état intérieur, qui est un état spirituel le plus parfait possible, va s'exprimer maintenant sur sa chair. Quand, par exemple, quelqu'un était en état d'impureté, eh ben, il devait aller purifier son bassar, sa chair. Bassar, c'est le même mot que mevasser, c'est quelque chose qui proclame. En quelque sorte, il allait dans l'eau et l'état de pureté intérieure est très proclamé par son corps. Qu'est-ce que l'eau nous dit ? L'eau nous dit qu'à un moment donné, il y a une rencontre entre quelque chose de très, très puissant sur le plan intérieur qui va s'affirmer à l'extérieur. Par exemple, dans le premier verset de la Torah qui dit « Veruach Elokim Arefet Alpenaim » l'Esprit de Dieu plané sur l'eau, le Midrash dit « C'est le Mashiach ». C'est une parabole du Mashiach. Au moment du Mashiach, il y a un état intrinsèque de l'humanité qui va se révéler à l'extérieur. Le roi Messie sera là. Le Mashiach va venir. D'accord ? Et la même chose, une femme au Mikvé, un état intérieur se révèle à l'extérieur. Et les Bnei Israël maintenant sont libres, et bien cet état, il s'affirme au moment de la mer Rouge. Pharaon et ses troupes se font décimer, et c'est tout, il n'y a plus d'Égypte, il n'y a plus rien. Les Juifs sont totalement libres. Ils avaient initié ce processus de liberté par le sacrifice de Pessah, qui les rendait libres avant d'être libres. Ils avaient prolongé ce processus en sortant d'Égypte physiquement, et là maintenant, il le prolonge complètement avec la disparition complète de l'Empire égyptien. Et donc, ils sont totalement libres à l'intérieur et à l'extérieur. Par contre, Moshe Rabbeinu, qui est le parangon de la liberté humaine, c'est un homme libre, libre des contingences, il a encore un chouïa d'ersatz, de choses infinitésimales qui n'est pas libéré. Et donc, il doit le faire pour que ça s'affirme à l'extérieur, il n'arrive pas. Et donc, il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Comme si, en quelque sorte, et c'est intéressant parce que ça reflète le fait qu'Am Israël n'était pas encore complètement prêt. En fait, la faute du chef, c'était la faute de la génération. Parce qu'Am Israël n'était pas prêt à recevoir Moshe Rabbeinu qui rentre en Eretz Israël et qui allait faire quelque chose de beaucoup plus grandiose que ce qui s'est passé par la suite. Et donc, c'est un petit peu cette réflexion autour de l'eau. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a, de manière très concrète et très pratique, pour les hommes, un très très bon usage de se rendre au mikvé le plus fréquemment possible. Et effectivement, pour les femmes, de bien se préparer au mikvé, pour sortir de Nida. Et j'en profite aussi pour dire une chose qui est importante, c'est que quand les femmes vont au mikvé, donc pour sortir de l'état de Nida, elles rendent possible l'union conjugale. Et je ne peux qu'encourager les couples qui nous écoutent à ne pas retarder le mikvé, à ne pas retarder la relation conjugale, et donc par conséquent, à faire le travail de préparation nécessaire pour établir cette harmonie totale qui s'installe dans le couple une fois que la femme est allée au mikvé, et donc une fois que les relations conjugales redeviennent possibles, ce qui est l'harmonie absolue dans un couple. Voilà ce qu'on peut développer comme thématique autour de l'eau. Je n'ai pas envie de terminer par une note humoristique en disant « Je nous souhaite à tous une bonne baignade », ça serait trop lourd. Mais par contre, je dis à tous les deux « Shavua Tov, Ezrat Hashem » et je nous souhaite la pluie très bientôt. La pluie ici en Eretz Israël, on a eu beaucoup de pluie, donc c'est bien, on est content. Et je nous souhaite d'avoir de bonnes pluies. Et là aussi, c'est très intéressant parce que nos Chachamim disent que quand la pluie tombe, les jours où la pluie tombe, il faut étudier la Torah. Parce que ce sont des jours qui sont beaucoup plus puissants que le jour du don de la Torah. Parce que c'est des jours où Dieu nous dit « J'écoute vos prières, donc je vous envoie la pluie. Alors vous ne pouvez pas sortir. Qu'est-ce que vous faites pour ne pas sortir ? Qu'il y a l'eau dehors. Vous prenez la Torah qui est l'eau de la Torah, et vous vous mettez dans cette eau. Shavua Tov.
Eh bien, on a eu un beau bain, là. Et, et moi, qui suis journaliste, en voyant le déluge d'eau qui sont tombées sur Israël, je me suis dit, c'est terrible, parce que non seulement, c'est la double punition, quoi. Non seulement, tu as la sécheresse, il fait très très chaud, c'est difficile, hein, la chaleur des fois caniculaire et en Israël c'est très dur, et en plus quand ça tombe tout d'un coup, et donc ça peut pas rentrer dans la terre, ça part directement dans la mer, enfin bref, c'est comme dans nos vies des fois, quand c'est la catastrophe, tout est, y a rien qui marche. Et bien j'ai lu dans des études, c'est le compte que cette année toute la pluie qui est tombée, au contraire, elle est tombée au bon moment, elle a pénétré dans la terre, elle a rempli les rivières, elle a fait monter le lac de Tibériade, elle a été magnifique, d'après ce que j'ai vu des experts, que je ne suis pas. Donc, c'est une vraie bénédiction. On sait que la pluie, c'est une bénédiction. Rav Mordechai Biton à Jérusalem, je vous remercie. Et Shavua Tov.
Shavua Tov.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Excellente soirée à tous. Et c'est à mon tour de vous souhaiter Shavuot Tov.
Shalom loy boy na boy, Hashem lo yishmari, shalom shokat shoy mei.